les marchands du temple. Histoire que nous connaissons tous. Histoire que nous visualisons assez aisément. Jésus, qui se confectionne un fouet, se fraye un chemin au milieu de la foule bruyante et des étals de marchandage. Renverse les tables, disperse les animaux et accompagne tous ces gestes violents d'une parole tout aussi violente. De la maison de mon père, vous êtes en train de faire une caverne de bandits. Et tout cela à Jérusalem, dans le temple. Alors, qu'arrive-t-il à notre Jésus, si doux? Pourquoi intervient-il si violemment alors qu'il prêche sans arrêt la douceur? Pourquoi se donne-t-il une pareille publicité alors que d'habitude, souvenez-vous, il accompagne ses miracles d'une extrême discrétion? Quel sens donner à ce passage difficile, déconcertant pour nous? Alors là, comme toujours, vous commencez à savoir ça, nous ne pouvons pas faire l'économie du contexte. Cette histoire, nous la trouvons dans les quatre évangiles. Dans ceux de Matthieu, Marc et Luc, l'histoire se passe à la fin du ministère de Jésus. Ce dernier arrive à Jérusalem, il vient comme le Messie pour purifier un culte qui est devenu trop formel. Et quand il est entendu par le conseil supérieur des Juifs, le Sanhédrin, il annonce qu'il veut détruire ce que le temple signifie, à savoir, dans ce cas-là, l'importance des rites. Et à la place, il annonce qu'il veut le remplacer par un culte spirituel. Dans l'évangile de Jean, la scène se déroule au début de son ministère, lors d'une fête de la Pâque. Jésus entre dans l'enceinte du temple et dans cette entrée se trouve tout ce qui facilite l'exercice de la piété rituelle juive de l'époque. Ce qui nous est décrit là est ce qui est tout à fait habituel. À l'entrée du temple, on place des bœufs, des brebis, des moutons, des colombes destinés à être vendus aux fidèles qui vont ensuite les offrir comme sacrifice à Dieu. Il y a aussi des changeurs, on nous parle de personnes qui sont là pour changer l'argent. Ces personnes-là procurent aux pèlerins qui viennent de l'étranger, où la monnaie est différente, l'occasion de changer la monnaie pour pouvoir ensuite acheter leurs bêtes pour faire des sacrifices à Dieu. Pareil dispositif est donc tout à fait habituel pour le bon déroulement de la vie cultuelle de l'époque. Pourtant, ce jour-là, Jésus ne l'accepte pas. Il va renverser tout ce processus au péril de sa vie. Jésus, en effet, sait qu'il enclenche un processus d'opposition violente avec les autorités juives et qu'il risque d'y laisser sa vie, ce qui se passera en effet. Les disciples l'ont compris. Et ils lisent au futur que ce zèle de Jésus sera sa perte. Ce que Jésus fait ici, dans ce temple, le conduira à la mort. D'ailleurs, cet incident du temple, et nous le relirons pendant le temps de Pâques, et les paroles qu'il prononce ce jour-là, lui seront rappelées quand il sera cloué sur la croix. Alors, qu'est-ce qui peut donc justifier un acte si lourd de conflit à venir? Je crois que nous pouvons nous engager dans deux types de réponses. La première, nous en avons un peu parlé, Jésus veut réaffirmer la sainteté du temple, souillé par l'argent et les tractations financières. Il s'insurge contre une commercialisation de la religion. Alors là, comme protestants, nous sommes tout à fait à l'aise avec ce type de remarque, nous qui n'insistons pas sur la sainteté d'un lieu, nous qui disons qu'un culte n'a pas besoin d'un temple ou d'une église pour avoir lieu, ce qui pose d'ailleurs question pour notamment certains actes pastoraux. Passons. Malgré tout, nous nous sentons mal à l'aise lorsque le temple est transformé en autre chose qu'en un lieu cultuel. Nous sommes tous dans ce cas-là. D'ailleurs, ici même, cette table qui est plutôt un autel, hein, l'autel c'est catholique normalement, mais avouez-le, ça ressemble plus à un autel qu'à une table, elle avait été mise là par nos prédécesseurs, justement pour parer à cette éventualité, que l'on puisse utiliser le temple dans un autre but que celui de faire un culte. Alors nous n'aimons pas la confusion entre commerce et religion. Et c'est ici, bien sûr, l'origine historique également de la protestation à la réforme contre les indulgences. Bien sûr, en même temps, nous savons comme protestants qu'il ne s'agit pas de bannir l'argent de nos conversations. Nous comprenons la nécessité de parler d'argent et d'en donner pour faire vivre notre Église. Et nous avons à cet égard témoigné notre reconnaissance dimanche dernier à l'Assemblée Générale par rapport à la générosité de chacun d'entre vous. Alors la question est bel et bien l'usage de cet argent. Pourquoi je donne ? Qu'est-ce qu'il m'apporte dans ma spiritualité ? Est-ce qu'il m'apporte quelque chose ? Il ne s'agit pas, bien entendu, de donner pour gagner notre place au paradis, ou peut-être pour être bien vu des autres, mais bien parce que Dieu m'aime le premier, me libère, et qu'ainsi il est naturel pour moi de faire vivre financièrement cette Église qui annonce ce message d'amour et de libération pour chacun. Bien, alors ces positions, nous les comprenons, elles nous honorent, mais ne nous permettent pas, je crois, pas encore, de comprendre ce récit. Car lorsque Jésus chasse les marchands du temple, ce n'est pas seulement pour purifier le temple de la présence impure et grossière de bétail et de vendeurs. Voyez-vous, le temple de Jérusalem n'était pas à l'image de notre temple à nous. C'était un ensemble immense. Et les vendeurs d'animaux se tiennent sous les portiques du parvis. Donc, bien loin, très loin du Saint des Saints, où résidait la gloire de Dieu. Une autre explication, peut-être plus précise, peut nous aider. Et nous l'avons déjà un petit peu évoqué. Jésus met en garde les Juifs contre les fausses sécurités des rites. À cette époque-là et à ce moment-là, Jésus sent que les Juifs placent leur confiance dans les sacrifices plus haut que leur confiance en Dieu. Ils se croient en règle avec Dieu, mais en oublient l'essentiel, une foi profonde, spirituelle, qui se traduit dans la recherche permanente de justice, d'amour du prochain et d'amour de Dieu. C'est pour ce motif que les prophètes, tout au long du Premier Testament, n'ont cessé de dénoncer une foi superficielle et ont exhorté le peuple à une réforme de la foi, une intériorisation de la foi et une mise en pratique de cette foi. Là encore, comme protestants, nous nous sentons des affinités avec cette protestation prophétique et ce combat pour une vie spirituelle débarrassée de ces surplus qui étouffent la vraie foi. Et là, vous avez peut-être senti, mais nous voilà déjà dans le sujet de notre semaine thématique qui commence dimanche prochain. La loi, c'est la loi. Jésus combat avec l'image forte des marchands, celle du légalisme, c'est-à-dire rendre la loi plus forte que la foi et non pas la laisser là où elle devrait être, au service de la foi. Les rites cultuels ont pris tellement d'importance qu'ils ont supprimé pour ces personnes, à ce moment-là, le cœur de leur foi. Avant d'aller à Jérusalem, dans l'évangile de Jean, Jésus avait inauguré à Cana, Vous connaissez aussi bien cet épisode. Un procédé que nous allons retrouver par la suite avec un acte fort. Il avait transformé l'eau en vin, auquel il avait donné un sens en enseignement. Et cette parole-là qu'il va prononcer devant des Juifs revient encore l'interroger sur sa légitimité. Qui es-tu pour oser contester des rites séculaires ? Jésus, dans notre texte, répond « Détruisez ce temple et moi, en 3 jours, je le rebâtirai. Je ne fais pas que purifier le temple, je le supprime, dit-il, car ce nouveau temple, c'est moi. Je le suis, dit-il, ou plutôt je le serai, une fois ressuscité. » Jésus nous propose ainsi, par cet acte fort et ses paroles fortes, une autre relation avec Dieu. Il annonce un changement radical. Le Christ est le nouveau temple de Dieu en personne. Et ce n'est qu'au lendemain de la résurrection, quand l'Esprit leur sera donné, que les disciples vont comprendre tout le sens du ministère de Jésus, qui en fait n'ont pas compris du tout pendant tout le temps où il était avec lui. Nous l'avons vu la semaine dernière, nous avons vu à quel point les disciples ne comprennent pas vraiment pourquoi le Christ est là et au fond ce qu'il veut. Eux aussi ont partagé l'incompréhension jusqu'au moment où, à la lumière du matin de Pâques, ils ont compris le sens de sa venue. Jésus parle de sa personne. Il est la présence de Dieu au milieu de son peuple, rendant inutiles les sacrifices. Jésus est la rencontre faite chair entre Dieu et les hommes. Aujourd'hui encore, bien entendu, Jésus-Christ est le temple de Dieu. Notre temple n'est pas ici, il est en Jésus-Christ. Jésus-Christ nous rend présent Dieu et nous le fait connaître. Par lui et avec lui, nous entrons en communion avec Dieu. Alors, frères et sœurs, en ce temps de carême qui nous prépare à recevoir la résurrection en nos vies, ce texte nous rappelle violemment ce qui fonde notre foi. Ce ne sont pas les rites, même s'ils participent à toute vie religieuse. Ce qui fonde notre foi n'est pas non plus notre vie communautaire, même si elle est importante et qu'elle consolide notre foi. Ce qui fonde notre foi n'est pas non plus l'identité à notre histoire et au peuple protestant, même si nous y sommes fortement attachés. Ce n'est pas non plus la densité de telle prédication ou la reconnaissance pour tel ou tel pasteur, même si c'est important. Ce qui fonde notre foi, ce qui nous permet d'entrer en communion avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce texte des marchands du temple nous dit qu'il nous faut donc cesser sans cesse épurer notre vie, épurer notre foi et les recentrer sur Jésus-Christ, en écoutant son enseignement, en s'imprégnant de ses paroles, en reconsidérant nos choix en fonction de lui, en accueillant chaque matin sa présence dans nos vies. Essayez. Face à un choix, demandez-vous, qu'aurait-il fait à ma place ? Essayez. En vous réveillant chaque matin, remettez votre journée entre ses mains. Jésus est le temple de Dieu. La porte est ouverte. Entrez.